Bonjour à toutes et à tous, 52e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rhodes, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rhodes du souvenir français.
Affirmatif.
Tout va bien ?
Ouais, tout va bien.
Alors, 52e numéro de Mémoire Aveyronnaise, où va nous emmener cette émission cette semaine, Vincent ?
Alors écoute, nous allons débuter tout près. Hein,
oui.
On ne peut pas même être plus près puisqu'on va débuter à Rhodes,
ouais,
à la fin du 19e siècle. Et cette chronique va se terminer dans la Creuse durant la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Donc on va quand même un petit peu voyager. Mais on commence, tu vois, à quelques rues de nos studios.
Très bien. Alors, point de départ, Rhodes.
Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un très, très beau parcours militaire. Alors, nous commençons donc avec la naissance de notre personnage. Donc, Robert Auguste Émile Marty est né... Marty, tu vois, c'est bien un nom aveyronnais, c'est bien un nom d'ici. Hein, est né le 26 juillet 1894... au 1 boulevard Denis Puech.
Ah bah oui,
tu
d'accord.
Tu vois, c'est pas très très loin, c'est de l'autre côté du tour de ville par rapport à nous. Sa maison natale a disparu et a laissé la place en fait à un immeuble. Son père a une très bonne situation puisqu'il est inspecteur du travail dans l'industrie.
Ouais.
Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose sur l'enfance de Robert Marty et sur sa scolarité, mais tout ce que je peux te dire, ça c'est on peut en déduire très facilement, c'est que c'était vraiment un très bon élève et on va le voir avec un très très bon niveau d'anglais.
D'accord.
Ce qui pour l'époque, déjà en France,
ouais,
de nos jours, c'est pas évident.
Voilà.
En Aveyron, peut-être encore moins. Et alors, t'imagines, au tout début du XXe siècle, n'en parlons pas. Mais on va voir pourquoi. J'ai déduit qu'il avait un très bon niveau d'anglais. Tu vas voir, ça va être simple à déduire. Alors, quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il rentre dans l'armée et il est nommé aspirant dans l'infanterie à l'âge de 20 ans. Aspirant, c'est juste en dessous de sous-lieutenant, c'est le premier grade d'officier. En général, les aspirants, c'est souvent des officiers qui sortent de l'école et qui, il faut faire un petit peu ses preuves au tout début avant de pouvoir passer sous-lieutenant. En 1916, il passe sous-lieutenant, puis lieutenant en 1917. Il sert au sein des 39e et 43e régiments d'infanterie. Il se distingue dans l'Aisne et en Champagne en 1915, dans les batailles de Verdun et de la Somme en 1916, au Chemin des Dames et dans les Flandres en 1917, ainsi qu'en Lorraine, où il se trouve officier de liaison au sein de la première division d'infanterie américaine. La première, la célèbre Big Red One.
Tu sais,
ça te dit peut-être quelque chose, non, la Big Red One ?
Oui, oui.
Quelques années plus tard, bien sûr, là on est sur la Seconde Guerre mondiale, c'est eux, principalement, avec une autre division, la 29e, qui vont débarquer sur la fameuse plage sanglante d'Omaha Beach.
Mm-hmm.
Bon, ça c'est une autre histoire. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est facile de déduire qu'il était très fort en anglais quand même, parce que pour être officier de liaison entre l'armée française et l'armée américaine... Ben voilà, je crois qu'il faut avoir un bon niveau quand même.
Vaut mieux.
Si on veut faire quelque chose de bien, il vaut mieux. Surtout en temps de guerre, parce que ça peut être compliqué. Il est décoré de la croix de guerre avec trois citations à l'ordre du régiment et puis une citation à l'ordre de la division. Il est également nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel.
Ah, dis donc.
Donc, tu vois,
Beau
parcours de combattant, ça prouve qu'il a fait vraiment une bonne guerre. Durant l'entre-deux-guerres, il est muté dans les chars de combat et il sert dans les troupes d'occupation en Allemagne entre 1921 et 1924. On l'oublie souvent cette période.
Ah, je croyais qu'on l'avait oublié lui.
Non. On l'oublie souvent cette période, mais c'est vrai que la France a occupé notamment la Ruhr avec toutes ses usines.
Et
oui, tu sais, quand un pays perd, il doit beaucoup d'argent aux autres, à ceux qui ont gagné,
en
dédommagement. Et la Ruhr, forcément, c'était la région la plus riche.
Ouais.
Et il fallait rebâtir la France et beaucoup d'usines, beaucoup d'acier, beaucoup de choses très utiles à la reconstruction de la France. Donc c'est pour ça qu'on a occupé quelques années une partie de l'Allemagne. Alors, il se marie à Paris 2 ans plus tard et aura de cette union 2 garçons. Il est promu capitaine En 1928, tu vois, il continue petit à petit son parcours. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il sert comme commandant à la 6e armée, puis il commande le groupe de manœuvre des chars de combat.
Ah ouais, quand même.
Donc voilà, il reste dans les chars de combat, ce qu'on appelait à la fin de la guerre de 14, l'artillerie spéciale.
Bah, mais il était avec De Gaulle, là, dans le truc de... Parce que De Gaulle,
De Gaulle était aussi dans les chars de combat. A priori, je pense pas. Non,
d'accord.
C'est pas du tout les mêmes, c'est okay. Pas du tout les mêmes régiments. À la suite de l'attaque allemande de l'Aisne, il est décoré de la Croix de guerre 1939-1940 avec une citation à l'ordre du régiment et il est promu officier de la Légion d'honneur.
En quelle année ?
En 1940.
Après la débâcle.
Voilà, tout à fait.
On a perdu, mais t'as une médaille quand même.
Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait.
Non, mais
tu peux recevoir des.
Tout à fait.
Tu peux recevoir des médailles même plusieurs années après.
Voilà, voilà.
Mais lui, il a pas reçu une médaille parce qu'on a perdu.
Non.
Il a reçu des médailles parce que justement, il est cité.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que lui, malgré la défaite, la débâcle, lui a quand même fait des trucs sympas.
D'accord. Mais parce que quand même, c'est juste une question de curiosité.
Ouais.
Donc là, les Allemands entrent en France, tac, pof. Donc qui est-ce qui lui remet la médaille, c'est pas des Allemands, quand même. Bon, l'armée française de l'époque, qui lui remet la médaille
Alors, je sais pas exactement, j'ai pas vu exactement quand il recevait cette médaille.
Ouais, d'accord.
Mais il reste quand même des officiers. Ouais. Même après l'armistice, il y a une armée dite d'armistice dans la zone dite libre.
Ouais.
Les Allemands nous autorisent, j'en ai déjà parlé dans des chroniques passées, les Allemands autorisent la France dans la zone libre à avoir une toute petite armée, pas pour combattre,
ouais, police,
mais pour le maintien de l'ordre. Toute petite armée en zone libre, et par contre, ils touchent pas à notre armée coloniale dans nos colonies. Ça,
d'accord.
Les colonies, les Français ont été assez étonnés, mais après l'armistice, enfin, avec les suites de l'armistice, quoi, les colonies n'ont pas été touchées par les Allemands. Ils voulaient vraiment la France métropolitaine.
Déjà.
Ouais, ouais, ouais. Alors, il reçoit, je sais pas trop pourquoi, mais il reçoit une distinction britannique. Il reçoit la médaille d'officier de l'ordre de l'Empire britannique.
Bah, quand même. Hein.
Donc, c'est pas mal.
Ouais,
c'est ce qui prouve encore une fois que son anglais devait être pas mal.
Il devait vraiment être bon en anglais. Ouais,
c'est
ouais,
ça,
ouais.
C'est ça. Après l'armistice, donc, on en a parlé, du 22 juillet 1940, il est muté au parc de récupération d'engins blindés de verre dans le Lot. Et
ah.
Oui, il faut essayer de sauver le matériel qu'on peut sauver.
D'accord.
La débâcle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des soldats et du matériel.
Ouais, qui partent dans tous les
partout.
Sens.
Partout.
Ouais.
Donc, ce qui est en zone occupée, bon, ben, c'est perdu.
Mmh.
Hein, les Allemands vont récupérer beaucoup, beaucoup de choses, y compris des chars français. En 44, notamment à la libération de Paris, on voit les Allemands avec certains chars français. Même en Normandie, ils en ont assez peu, mais ils font feu de tout bois. Ils prennent vraiment tout ce que, dans les autres pays, tout ce qu'ils peuvent prendre.
Mmh.
Donc, voilà, lui, comme il est spécialisé dans l'arme blindée, on va lui demander de s'occuper de rapatrier et de regrouper tout ce qui peut traîner en zone libre, comme blindés, pièces de blindés, équipements, enfin voilà, tout ce qu'on peut sauver, tout ce qu'on peut regrouper. Il est mis en congé d'armistice en janvier 41,
mmh.
Et il devient professeur, puis adjoint principal en 1942 à l'école militaire de la cavalerie du train et de la garde à Tarbes.
Ah ouais. Prof d'anglais.
On a regroupé plein de choses. Hein.
Prof d'anglais.
C'est pas précisé.
Ah, parce que prof de train, ça m'étonnerait.
Mais voilà, mais comme bon. Il est bon en anglais, peut-être, ouais. Peut-être qu'on a utilisé ses capacités.
Mmh.
Alors, donc dans ce que j'ai dit, cavalerie, train et la garde,
mmh.
Je rappelle ce que c'est la garde. J'en ai déjà parlé. En fait, la garde, c'est l'ancêtre de ce qui deviendra, après la Seconde Guerre mondiale, la gendarmerie mobile.
Ah,
voilà,
ouais.
C'est ça la garde.
Ouais, oui.
Alors ce mot garde, c'est important pour la suite, puisque en octobre 1943, il est affecté à l'école de la garde de Guéret.
Guéret, Guéret. Ah, oh, c'est en plein sens. C'est vers Château. Non, c'est dans la Creuse, ça.
C'est guérait. Bien, bravo. Ouais. C'est ça. Oui, c'est dans la Creuse.
Voilà.
Alors là, il monte quand même. C'est une belle promotion parce qu'il monte. Déjà, c'est une belle école. Et puis il monte.
C'est la Creuse quand même. Hein.
Pardon.
Ça reste la Creuse.
Oui, mais on s'en fout.
Ah, ouais, d'accord.
C'est l'école qui compte.
D'accord, okay.
Voilà, c'est l'école qui compte.
Okay.
C'est l'école, c'est la formation.
Oui, oui.
C'est pas rien quand même.
Non, oui.
Et donc il a une promotion puisqu'il est nommé lieutenant-colonel.
Ah, alors.
Lieutenant-colonel,
oui,
et également chef des services techniques de cette école.
Oui.
À la suite du débarquement en Normandie. Il rejoint la résistance et les forces françaises de l'intérieur de la Creuse, les fameux FFI, avec une très très grosse partie de l'école, qui formera le maquis FFI, alors ils gardent le même nom, de l'école de la garde de Guéret.
D'accord.
Le 20 juillet 1944, le maquis est attaqué par les Allemands dans le bois de Champois, près de Saint-Dizier-l'Eyrenne, donc toujours dans la Creuse, hein. Le lieutenant-colonel Marty est fait prisonnier avec d'autres maquisards. Dans le livre « Les cadets de la garde dans la tourmente », un de ses subordonnés témoigne. Alors je vais le citer. « Vers 17h, un officier allemand, suivi d'un interprète, nous désigna, le lieutenant-colonel et moi-même, par « vous et vous ». Le lieutenant-colonel fut amené dans une voiture et moi-même dans un sidecar vers Bourganeuf, puis enfermé dans la tour Zizim. Alors j'ai regardé cette tour Zizim, en fait c'est une tour fortifiée qui se trouve à Guéret.
D'accord.
Où nous passons la nuit sans boire ni manger. Le lendemain, tous les prisonniers de la garde et autres furent dirigés vers des cars dont les vitres étaient peintes en blanc. C'est là que nous avons vu le lieutenant-colonel Marty au garde-à-vous sur les marches de la mairie de Bourganeuf, portant autour du cou un panneau où était écrit en français « Je suis un parjure au serment du maréchal ».
Ah, oh bah c'est
pas rien quand
non,
même.
Non, oui, c'est pas rien.
C'est pas rien. Et oui, nous sommes sous le régime de Vichy.
Ouais, ouais, ouais.
L'école de la garde, quand même, je l'ai dit, la garde, ça, c'est ce qui deviendra la gendarmerie mobile. Donc, les gens qui sont là sont censés obéir aux ordres sans réfléchir et surtout aux ordres du gouvernement de Vichy et du maréchal.
Ouais.
Et là, outrage suprême, ils sont partis de cette école. Donc ils ont tourné le dos au maréchal pour rejoindre la résistance française. Ce que beaucoup appelaient à l'époque des terroristes, surtout les Allemands et le gouvernement de Vichy.
Oui. Et le panneau là, qui c'est qui lui a mis, c'est la milice française ou ça me semble plus à du français qu'à de l'allemand, ça.
Ouais, mais c'est sûr. Ouais, je suis d'accord.
Ouais.
Mais moi j'ai entendu parler que d'allemand.
Ah, bon,
donc il y a peut-être, comme tu dis, il y a peut-être du milicien là-dessous.
Hein. Okay.
Alors en plus de cette humiliation, les Allemands l'ont très violemment torturé.
Ah merde.
On va le voir par la suite. Hein.
Ouais.
Il est ensuite interné à Aubusson, à Clermont-Ferrand et à Chamalières. Le témoin dont nous venons de parler, dont je viens de citer le récit, reprend. Le lieutenant-colonel Marty, plein d'ecchymoses et l'œil gauche crevé et pendant, je l'ai reconnu grâce à son uniforme et à ses bandes molletières. Il était sans galon, sans bouton et il était méconnaissable. Les dernières paroles qu'il m'adressa furent celles-ci. S'il continue, je me couperai les veines avec mon canif que j'ai dans ma bande molletière. Au revoir. Alors, sans bouton, sans grade, ça te fait penser à quelque chose ?
Non, je veux dire une connerie.
C'est la façon militaire de dégrader quelqu'un.
Ah bon ?
Ah oui. Quand on quand on voit Dreyfus, c'est exactement ça. On lui a enlevé publiquement tous ses boutons, on lui a arraché les boutons, on lui a arraché ses grades, et lui c'était un officier, il avait un sabre. On a cassé publiquement la lame de son sabre devant tout le monde. Ça, c'est vraiment l'outrage suprême. Et donc, comme on vient de le voir, en fait, il a été tellement torturé, c'est horrible, hein, que les témoins donc racontent, il a un de ses yeux qui est complètement sorti de son orbite et qui n'est retenu, qui pend que par son nerf optique. Hein. C'est vraiment quelque chose de terrible. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1944, au 1 avenue de Roya, à Chamalières, les membres de la Gestapo le torturent une dernière fois et l'abattent d'une balle dans la tête.
Mmh.
Voilà, donc c'est vraiment dramatique.
Ouais,
en fait, d'après ce que j'ai entendu dire, donc lui, il était lieutenant-colonel. C'était un des responsables de l'école, mais c'était pas le responsable de l'école. Lui, il était responsable, comme on vient de le voir, des services techniques. Peut-être que ils ont cru que c'était le responsable de l'école et qu'ils ont voulu lui faire payer que la presque totalité de l'école et des cadets rejoignent la résistance. Voilà, torturés, retorturés, et puis finalement, même pas en moyen de déportation, abattus. Jean Moulin, je le rappelle, torturé à mort, puisqu'il en est mort, mais lui, on l'a pas exécuté, on l'a envoyé vers la déportation et il est mort de ses blessures, des suites de la torture dans le train qu'il emportait vers l'Allemagne. Alors, nous célébrons aujourd'hui, en cette année, 2024, le 80e anniversaire de la mort du lieutenant-colonel Marty. Après la Seconde Guerre mondiale, il obtient à titre posthume le grade de colonel dans les FFI, la médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance, la médaille de la résistance française et la croix de guerre 1939-1945 avec une citation à l'ordre de l'armée énoncée en ces termes. Donc je vais vous la lire. Chef du service technique de l'école de la garde de Guéret s'est mis spontanément à la disposition du commandement de l'école le 6 juin 1944 pour participer à la résistance. A dirigé personnellement, au mépris des dangers, le service automobile de tous les escadrons. Grâce à ses connaissances techniques approfondies, il a permis à ses unités de disposer des véhicules qui leur étaient indispensables pour vivre et combattre. Fait prisonnier lors des combats de juillet contre les troupes allemandes dans la région de Bourganeuf, entre parenthèses Creuse, a été fusillé. Très belle citation. Il recevra également à titre posthume une reconnaissance extrêmement rare en étant cité à l'ordre de la nation.
D'accord.
Pour un militaire, alors je ne sais pas pour un civil, mais pour un militaire, c'est vraiment extrêmement rare. Alors je vous lis cette citation. « Magnifique officier supérieur d'une haute valeur morale, animé des plus brillantes qualités militaires et de la flamme la plus pure. » Le 7 juin 1944, s'est spontanément joint au FFI de la Creuse, entraînant avec lui la totalité de l'école de la garde. Le 20 juillet 1944, après de farouches combats et une lutte inégale, a été fait prisonnier par les Allemands près de Murat. Attaché au poteau, sur la place publique de Bourganeuf, a été conduit par la suite à Clermont-Ferrand pour y subir les pires tortures. A succombé le 25 juillet 1944 dans d'atroces souffrances sans avoir prononcé une parole qui aurait pu livrer au massacre tous ses compagnons d'armes. Symbole des vertus militaires les plus éclatantes et du plus ardent patriotisme dont le martyr et le sacrifice constituent le plus héroïque exemple.
Et il a été inhumé où alors ? Il est revenu en Aveyron ou pas ?
Non. Mais je vais te le dire juste après. Parce que, voilà, tu sais, là, on vient de terminer. Tu sais, moi, j'aime bien, quand je parle de quelqu'un, terminer par les hommages qui lui sont rendus. Alors, on a vu déjà les décorations, etc. Mais les hommages, je dirais, les hommages un peu plus visibles, les hommages matériels. Alors, son nom est gravé sur le monument aux morts, sur le mémorial de la résistance creusoise et sur la plaque aux morts de l'école de la garde, tous ces monuments se trouvent à Guéret. Son nom est également gravé sur la stèle aux morts du pont de Murat, à Saint-Dizier-l'Eyrère, c'est là où il a été fait prisonnier, sur le monument aux morts de Rodez et sur la plaque commémorative qui se trouve sur l'emplacement de sa maison natale au 1 boulevard Denis Puech.
D'accord.
Pour honorer sa mémoire, les élèves de la 3e promotion du corps technique et administratif de la gendarmerie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun l'ont choisi comme parrain de promotion en juin 2004. Ces décorations, qu'il a reçues à titre posthume, et puis aussi qu'il a reçues en 14-18, se trouvent dans une vitrine dans la salle de tradition de la gendarmerie de Guéret. Et sa dépouille, puisque tu me l'as demandé, repose au cimetière communal de Mende, en Lozère.
Ah oui.
En fait, c'est son épouse qui était originaire de là.
D'accord.
Voilà, j'ai posé la question, pourquoi Mende, pas l'Aveyron ou la Creuse, hein. Mais en fait, son épouse était originaire de Mende, donc elle a rapatrié le corps pour l'avoir auprès d'elle. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement mon ami le lieutenant de gendarmerie en retraite, Raymond Duplan, délégué aux commémorations de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie, historienne de la gendarmerie et ancien conservateur du Musée national de la gendarmerie de Melun, qui m'a beaucoup aidé à préparer cette chronique en partageant avec moi ses recherches sur l'extraordinaire parcours du colonel Marty. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est lui, en fait, qui a fait poser la plaque qui se trouve sur l'emplacement de son ancienne maison, l'ancienne maison du colonel Marty, au boulevard, au 1 boulevard de Nipuèche. Et c'est lui aussi, avec ses recherches, qui a fait rajouter le nom, il n'y était pas, le nom de Robert Marty, qui manquait, en fait, sur le monument aux morts de Rodez.
Ah ouais, dis donc. Oui.
Donc, très, très, très beau travail de mémoire. Un grand merci, Raymond. Et je sais que tu nous écoutes fidèlement. Donc merci beaucoup. Je tiens également à remercier monsieur Xavier Leroy, président de l'Amicale des Cadets de la Garde, qui m'a envoyé une très belle photo. Vous pouvez la voir si vous allez sur le podcast de cette chronique. Cette photo a été prise en 1939, juste avant la guerre, et on peut voir Robert Marty en tenue de commandant de char. On reconnaît bien les insignes. Il est en compagnie de son épouse et de ses deux jeunes enfants. Voilà, de très très belles photos. Donc merci et merci beaucoup pour cette photo.
Eh ben merci beaucoup à toi Vincent pour cette nouvelle émission aujourd'hui autour de Robert Marty, que j'ai découvert, que tu as dû faire découvrir d'ailleurs à de nombreux auditeurs, Robert Marty.
Alors certains passent souvent devant cette plaque parce que y a des médecins qui se trouvent dans cet immeuble. Ah ouais. Donc je vous invite, chers auditeurs, toi aussi, mais toi je sais que tu le fais, à lever les yeux. Ouais. C'est dur quand on a un portable des fois, mais à lever les yeux parce que partout, pas qu'à Rodez, il y a des plaques commémoratives et c'est vraiment intéressant pour notre histoire, notre mémoire et notre culture personnelle, parce que des fois vous avez des poètes, des fois vous avez des hommes politiques, des fois vous avez des résistants comme le colonel Marty. N'hésitez pas à vous arrêter et à regarder un petit peu ce qui a marqué sur les plaques. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça aussi la mémoire.
Tout à fait. Merci beaucoup Vincent. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission.
Oui, bien sûr.
Tu connais déjà le programme de la prochaine ?
Je pense. Ah. Je pense que je vous parlerai. Alors, je vais voir le temps que je mets. Peut-être une, peut-être deux. Je pense que je vous en parlerai de deux. Des affaires criminelles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'affaires criminelles. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de. J'allais dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sang dans cette émission. Mais enfin, bon, on voit le martyr de ce pauvre colonel Marty. Deux affaires criminelles. Je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles se passent au tout début du XXe siècle.
Très bien. Bon, en attendant, bonne semaine à toi, Vincent.
Oui, bonne semaine à toi, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.